Alors on enchaîne dans l'ordre, c'est Laurent qui t'a le droit de revenir.
C'était une communication que j'aurais dû faire il y a exactement un an. Le 10-11 décembre, il y avait une journée Work in Progress. J'avais préparé cette communication en anglais, alors me demandez pas pourquoi. J'avais cru que c'était une commande. Et globalement, voilà, je tenais à faire quelque chose sur René Tesch, qui est un punk messin. En tout cas, lui, il se définissait pas comme ça, mais ses proches le définissaient comme punk messin. Lui s'autoproclamait plutôt rocker que punk. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt son entourage, sa compagne, et puis les autres musiciens de la scène messine qui le voyaient comme punk, ce René Tesch. Comme vous le voyez sur le titre, hein, il était né en 1952, il est décédé d'une leucémie en 2021, donc récemment. Si vous regardez bien ce texte qui a été rédigé par Denis Smog, c'est-à-dire un chanteur de la scène messine et aussi un auteur de BD, qui a rédigé une BD notamment qui s'appelle Underground. Et la dernière phrase, c'est ça, il faut lire Rue des Singes, j'en reparlerai, c'est un ouvrage rédigé par René Tesch. René était là où il faut et là où il ne faut pas, virgule, punk incorruptible. Comment j'ai procédé? Globalement, même si effectivement René Tesch lui-même, hein, je répète, se définissait pas forcément comme punk, j'ai eu l'occasion de m'entretenir deux fois avec lui, même si, à la vérité, c'était plutôt avec le batteur de son groupe, De Wendel Dembe, son dernier groupe, qui tournait régulièrement sur la scène messine. Je les ai vus en local de répétition, en préparant d'autres thématiques sur la scène messine. J'ai vu aussi sa dernière compagne, qui m'a montré quelques archives et fourni quelques photos, et puis la plus jeune de ses filles, parce qu'il en a eu plusieurs. Donc, voilà en quoi, comment j'ai mené ma méthodologie, c'est autour d'entretiens semi-directifs. Ici, vous avez René Tesch sur son dernier ouvrage, un ouvrage qu'il a publié en 2007, qui s'appelle Rue des Singes. C'est une autobiographie. Il montre qu'il a vécu plusieurs vies. Il adorait le rock en général. Il adorait tellement qu'il en allait, et on verra les rapports avec la loi, j'en reparlerai, jusqu'à voler des vinyles. Et l'histoire entière de sa vie, ici, jusqu'en 2007, donc, est contenue dans ce livre assez punk, je l'ai lu en entier, assez punk, qui s'appelle donc « Rue des Singes ». Alors, dans ce livre, on en reparlera, il utilise souvent le plat, c'est un idiome, un argot à mi-chemin entre l'allemand, le luxembourgeois, qu'on utilise en Moselle. Il l'utilise dans le livre, évidemment, il y a des phrases en français, il l'utilisera aussi dans ses chansons. Et donc, René Tesch, on le voit à travers son livre, peut être considéré comme un vieux punk, parce qu'il avait 68 ans au moment où il a fait ses dernières performances sur scène. Il peut être considéré comme un punk qui s'ignorait, parce que, d'après moi, il en avait l'attitude, mais sans penser lui-même qu'il en était un. Alors, pour aller plus loin, une rapide biographie, il est né dans une famille assez pauvre. Il était lui-même ce qu'il considère un outsider. Lui et ses frères et sœurs ont été placés la plupart du temps dans des familles d'accueil. Il a souvent été séparé contre son gré de ses frères et sœurs. Et globalement, il s'est marié quand il a été libéré de ses obligations militaires, parce que malgré tout, même en tant que punk, il a fait le service militaire obligatoire. Il s'est marié juste après, séparé sans prendre soin de sa première fille. Il s'en est voulu toute sa vie. Il a été marié une deuxième fois, il a eu deux filles, et là, c'est sa femme qui l'a quitté pour s'établir à Nice. Il a une histoire un peu compliquée, parce qu'il a eu mis du temps à retrouver ses filles, dont la plus jeune, Bérénice, à qui j'ai eu des entretiens, est allée en vacances chaque année à Metz pour visiter son père pendant un mois à peu près. Il a passé beaucoup de temps dans les squats, on le voit ici lui-même photographié dans des squats à Nice, par exemple, et il a passé un peu de temps en prison, c'est là qu'on peut voir les rapports avec la loi, pour ce qu'il appelle des petits vols, et il le qualifie lui-même dans son livre de vols similaires à ceux que Patrick Devers ou Gérard Depardieu ont commis dans les valseuses, par exemple, des petits larcins. La plupart du temps, il vivait dans un appartement, mais comme un SDF, c'est-à-dire qu'il avait hérité d'un appartement près de la brasserie Amos à Metz, c'est une brasserie mythique, mais malgré tout, il n'avait pas de quoi se payer le chauffage, et la plupart du temps, il vivait du RMI. Alors ici, on voit un ouvrage qui a été co-signé de Denis Robert. Pour ceux qui le savent pas encore, Denis Robert, c'est un journaliste célèbre en France, notamment pour nos amis canadiens. C'est celui qui a mis en lumière l'affaire Clearstream à cette époque. Et puis, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Blast, actuellement, hein, vous connaissez peut-être, où il révèle pas mal de scandales. Alors, Denis Robert a signé les textes, et les photos sont essentiellement des photos de SDF, de gens qui vivent dans la rue, qui ont été prises par René Tesch, justement, dans les familles d'accueil qu'il avait fréquentées, appris à photographier. Il avait eu le virus ensuite au service militaire, et il passait beaucoup de temps à se lever la nuit, d'après le témoignage de sa fille Bérénice, à aller photographier dans la gare de Metz, aux alentours, les SDF. Et elle se rappelle, sa fille Bérénice, qu'il ne pouvait pas être dans la rue sans engager la parole avec les SDF, avec les prostituées, avec les laissés pour compte, parce qu'il disait qu'il avait beaucoup d'empathie, notamment parce que lui-même a été en famille d'accueil, d'après Bérénice, beaucoup d'empathie pour ces gens-là, et dit que chaque vie méritait qu'on s'y intéresse. Et globalement, lui dit s'inspirer du photographe américain Wiggy, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, justement sur cet aspect de vie dans la rue, ce que Wiggy avait photographié à New York. D'après sa fille Bérénice, hein, son autobiographie Rue des Singes, pour lui c'était de la daube, mais il était quand même fier de l'avoir rédigé. Alors, ce portrait de groupe avant démolition, dont les textes sont signés de Denis Robert, je vous les conseille. Il s'est connecté, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports avec le groupe punk PKRK à Metz, qui était né en 1989, et eux-mêmes l'ont embauché. Ils lui ont payé des pellicules pour qu'ils suivent leur tournée en France et en Angleterre. Vous avez quelques photos de ces tournées. Donc, photos prises par René Tesch, photos de PKRK. Et il lui payait donc ces pellicules pour qu'il puisse survivre en tournée. Ça me rappelle le travail de certains des photographes qu'on a la chance d'avoir sur PIN parfois. Donc, il n'a pas d'argent, mais il adore être dans l'entourage de cette scène punk. Il adore tellement qu'il a l'idée de monter son propre groupe. Et vous avez un petit texte qu'il a rédigé lui, que j'ai tiré des archives de Patricia, sa dernière compagne. Il monte un groupe qui s'appelle La Femme aux Trois Cerveaux. Ils font d'abord une version punk de Lady Madonna, il y a deux ans, je crois, mais c'est son texte, hein. Il dit « On joue devant des salles pleines, le No Future me va très bien ». Donc, pour quelqu'un qui ne se voit pas comme punk, il y a quand même pas mal d'acquaintances, à mon sens. Ces photographies ont aussi été utilisées ici par le groupe Distorted Truth, et notamment sur leur album Counterfeit Culture en 1996. Ces photos, elles sont extraites du livre Portée de groupe avant démolition. Alors, dans son premier groupe, en 1995, qui s'appelle La Femme aux Trois Cerveaux, vous avez ici deux affiches qui annoncent des concerts, hein, dans des bars de Metz. La bière à 10 balles, c'était à l'époque où c'était en francs, donc, hein, et non pas en euros. En fait, c'est parce qu'il a toujours été amoureux de la musique. La meilleure preuve, c'est que quand la police l'a arrêté dans les années 90 et qu'il a fait quelques mois de prison, ils ont retrouvé des vinyles encore sous blister et des cassettes encore sous blister. Il avait cambriolé des magasins de disques et il n'avait pas eu le temps de tout écouter. Alors, celle qui n'était pas encore sa compagne, Patricia, se rappelle justement avoir promené ses chiens pendant qu'il était en tôle et avoir récupéré quelques-uns des vinyles qui étaient planqués et que la police n'avait pas saisis. En 1995, donc, René remplit ses vieux rêves. Il monte son propre groupe, donc La Femme aux Trois Cerveaux. Au départ, avec le chanteur des PKRK, Vincent, et puis Jean-Charles à la batterie. Et ils ont parfois des guitaristes, mais qui s'en vont. Et c'est là où le projet devient réellement punk. C'est-à-dire que quand il se retrouve sans guitariste, il maintient les concerts. C'est lui-même qui passe à la guitare, mais il connaît pas un seul accord. Et il sait pas jouer. Mais ils font leurs concerts quand même. Bérénice, alors j'ai pas récupéré le 45 tours qu'ils ont enregistré. Sa fille Bérénice se rappelle de chansons qui s'appellent « Tout est dans les bouquins » ou « La paperasse ». Donc ensuite, ils montent un groupe qui s'appelle les De Wendel Dembe. Alors, à nouveau, pour les amis canadiens, les De Wendel, c'est, vous le voyez ici, la 68e fortune de France. Je passe vite, hein. Le Dembe, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ils me l'ont dit en répétition, mais honnêtement, j'ai plus d'idée de ce que ça représente. Donc globalement, par contre, c'est une formation où René chante en plate. En plate, donc, c'est le dialecte lorrain. J'aurais aimé vous faire entendre une chanson qui s'appelle Scheiß Dreckkampfinger. Ça veut dire Scheiß Dreckkampfinger, c'est de la merde au bout des doigts, mais de la merde que vous êtes torché avec votre doigt, bien sûr. Globalement, c'est pas les seules chansons, hein. Vous avez ici le vinyle qu'ils ont enregistré en 2017, des Himmel brennt, qui veut dire donc le ciel brûle. Et ici, vous avez la croix de Lorraine symbolique. Donc, globalement, Patricia se rappelle que c'était assez cacophonique au départ. C'est quand le jeune guitariste Nico rejoint le groupe qu'elle dit qu'elle peut danser pendant les concerts et que De Wendel Demme devient un vrai groupe de scène tel que vous l'avez ici, par exemple. Simplement, moi, quand j'ai rencontré René à une première répétition, il m'avait avoué essayer de traduire en plate, c'est-à-dire en patois lorrain, des textes de Rimbaud et de Verlaine pour les mettre en son, justement, sur une musique qui est un peu robotique, un peu répétitive, des De Wendel Demme. Malheureusement, j'ai pas la connexion pour vous la faire écouter. Ce 45 tours, hein, il est disponible, vous le trouvez sur les plateformes de streaming, et vous avez quelques liens YouTube ici. Alors, simplement, René est mort d'une leucémie. Un an avant de mourir en 2021, donc en 2020, il apprend qu'il a une leucémie. Pour lui, ça change rien, ça n'avait pas l'air de le déranger. Il continue à vivre dans son appartement non chauffé. Il voit quand même régulièrement sa fille Bérénice. J'aurais aimé, moi, lui parler davantage, mais je ne savais pas où on allait dans ses dernières répétitions. Alors ce parc René Teche que vous avez ici, je vérifie, oui, en fait... c'est le centre culturel du Sablon, j'en ai parlé dans d'autres communications. La scène Messine, il y avait un bunker, une petite salle de 5 mètres sur 4 à peu près, avec du matos, sans fenêtre, et les groupes s'échangeaient les clés, venaient répéter en douce, et il y a des centaines et centaines de chansons, je vais pas dire de groupes, hein, mais de chansons de la scène Messine qui sont nées dans ce bunker, qui malheureusement a été détruit parce qu'ils ont refait le centre culturel aux normes, et du coup les groupes se sont un peu dispersés ailleurs. Néanmoins, le gérant du centre culturel a fait tout pour qu'il y ait ce parc René Teche, qui est juste derrière le panneau, il est juste derrière le bunker qui a servi de répétition à tant de groupes messins. Donc moi, j'aurais aimé lui parler davantage, ben voilà, ça n'a pas été le cas, mais je pense lui rendre un hommage en faisant cette communication. Simplement, quand il est mort, il y a toute la scène messine qui est venue, et ses filles, notamment, n'en revenaient pas du monde qu'il y avait à son enterrement, enfin, à la cérémonie funéraire, parce qu'il n'a pas été enterré, à la cérémonie funéraire, et qu'il avait laissé une telle marque, hein, sur Metz et sur la scène messine. Est-ce que René était un punk ? Ben oui, pour moi, incontestablement. Lui-même ne s'est pas vu forcément comme un punk, mais à travers ces quelques exemples, voilà, c'était quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui était dans ce que vous appelez, ce que nous appelons le « do it together », qui allait vers les autres spontanément, qui donnait une valeur spéciale aux gens, y compris aux laissés pour compte. Je vous lis un petit passage de « Rue des Singes », page 260. Il écrit ceci « Sur ma veste, j'ai une médaille militaire que j'ai volée dans une pension, et je trouve que ça le fait, ça me donne un look qui est un putain de look punk ». Et donc, voilà ce qu'il écrit. Alors, est-ce que c'était un punk de façon non intentionnelle ? Sûrement. Est-ce que c'était un punk qui s'ignorait ? Sûrement. Est-ce que c'est un punk qui laisse un héritage, en tout cas sur Metz ? À mon sens, oui, totalement. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à aller voir René Teche sur scène.
Ben, merci Laurent pour cette... Je retiens ce que tu as dit à la fin, c'est toujours la surprise qu'on a par rapport à ce que représente le punk ou la personne en l'occurrence dans ce monde-là et ce qu'elle laisse, ce qu'on disait tout à l'heure quand on a présenté le projet tout à l'heure avec Solveig et aussi pour la scène de Laval. Donc c'est l'importance finalement de ce... Et puis bon, merci aussi pour avoir traité vraiment cette thématique finalement à travers la trajectoire d'une personne. Son propre questionnement aussi par rapport à ça. Voilà. Et puis, son rapport à la marginalité. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage sur la photographie, hein, le rapport à aller photographier les gens dans la rue. Voilà. Et moi, juste une question, après je donnerai la... De sa musique, il disait quoi ? tu disais, est-ce que c'était punk ou pas, est-ce que en tant que genre musical, il l'a qualifié ou pas?
Alors lui, non. Enfin, en tout cas, quand je suis allé les voir, on répète pas spécifiquement. Après, il avait conscience quand même de faire une performance. Et à ce niveau-là, il a ses punks. Alors curieusement aussi, sa fille m'a dit qu'il aimait bien se préparer pour les concerts, choisir ses vêtements. Même si c'était une vieille combinaison type garagiste, il aimait bien prendre soin de faire cette performance. Et il était conscient quand même que... j'ai une vidéo de lui devant un cinéma de Metz pendant la fête de la musique. Conscience qu'il avait un impact sur les gens qu'il allait chercher. Et sans le dire ouvertement, je pense qu'il était conscient d'agir d'appartenir quand même à une certaine mouvance punk, en tout cas, grâce à son appartenance au groupe de Wendel Demme que j'ai vu. Femme outre cerveau, ça, j'ai pas vu. Oui, donc il avait suivi en tournée, effectivement. Je vois que tu as bien suivi, ça me fait plaisir.
Ouais.
Qu'il a photographié en tournée, il y a pas mal de photos, effectivement. J'ai pas tout mis.
Sur le corpus que tu as mobilisé, tu parlais d'entretien. Est-ce qu'il y a des
archives? Tu as montré beaucoup de choses. Où est-ce que tu as trouvé la famille?
Ouais, alors c'est sa compagne justement qui a des microfilms, qui a ça. Alors je lui avais parlé de ça à l'époque en disant que si ça l'intéressait, on pouvait archiver. Alors du coup, comme j'avais pas présenté cette com il y a un an, j'avais pas repris contact avec elle. Et là, comme j'avais pas arrêté de tousser comme un blaireau ces derniers temps, je voulais être sûr de faire la com avant de reprendre contact et dire voilà, ça a été fait, ça a été enregistré et je t'en remercie et je vais te filer le lien et ainsi de suite, enfin à sa fille, à sa compagne. Et je pense qu'effectivement on pourra récupérer pas mal de choses.
Sur la plaque du square là,
ouais.
Est-ce qu'il faut l'avis de la mairie ou de la commune pour
je pense qu'il l'a fallu.
Donc comment eux ils sont, enfin je sais pas, par rapport à cette demande d'un personnage qui est plutôt la marge, de mettre une plaque commémorative l'espace public de la commune, enfin de la ville.
Effectivement, zut, je suis un blaireau, j'ai enlevé ça, on aurait pu regarder. La plaque, elle est à l'intérieur du centre culturel, à l'intérieur du parking. Et donc, je pense que c'est pas visible, c'est pas un square tout public. Il faut franchir la barrière. Et je pense que grâce à ça, ils ont pu l'implanter. Alors, je redemanderai à l'occasion, je pense qu'il y a eu une forte impulsion, une forte demande du directeur du centre culturel. Apparemment, il a dû se battre quand même pour arracher même cette autorisation-là. Effectivement, c'est une bonne question, je me renseignerai. C'est un espace public, mais quand même privé, si je réponds à ta question, parce que c'est à l'intérieur des barrières.
Est-ce qu'elle est référencée dans, je sais pas, le cadastre ou des trucs comme ça?
Ouais,
dans le plan de la ville ou
je noterai, je demanderai.
Lorsque vous évoquiez, en fait, je pourrais pas prononcer le nom du groupe, mais en fait, ce groupe-là, qui chantait en patois, Pat, vous disiez au départ qu'ils étaient plus cacophoniques et ensuite plus dansants. Est-ce que c'était une visée? Est-ce que c'était intentionnel ou c'est seulement l'arrivée de ce nouveau musicien à l'intérieur du groupe qui a, bon, en quelque sorte, impulsé ce changement?
Alors, je pense que c'était fortuit, c'était pas intentionnel de sonner cacophonique. C'est parce qu'ils avaient des guitaristes réguliers, mais quand ceux-ci s'en allaient, se barraient, plutôt que de renoncer au concert, ils préféraient jouer là de façon occasionnelle avec un mec qui savait pas jouer à la guitare et de faire le concert quand même. Plutôt que de dire on annule parce qu'on n'a pas de guitariste. Ah, et effectivement, d'après sa dernière compagne, quand il y a eu le jeune guitariste qui est arrivé, puisqu'ils ont dû avoir des guitaristes plutôt débutants aussi, des gars qui jouaient mieux que René, mais quand même pas super, et c'est quand le... Alors je dis jeune, peut-être qu'il a 35-40 maintenant. Si, c'est très... Bon, c'est jeune. Pour moi, c'est très jeune. Du coup, c'est avec lui que c'est devenu dansant dans les termes de Patricia que, bon, on pouvait bouger devant la scène. Voilà.
Super, merci. Merci pour ce... Comme super.